Balado, sociologie et société.
Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane Moulin, professeur au département de sociologie et directeur de la revue Sociologie et Société. Pour ce deuxième balado de la revue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Johan Michel et Jean-François Côté, qui ont dirigé le numéro thématique intitulé « Une sociologie herméneutique ». Jean-François Côté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département de sociologie de l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal. Vous vous intéressez à la théorie sociologique, à l'épistémologie, à la sociologie de la culture. Vous avez publié plusieurs ouvrages, parmi eux deux ouvrages portant sur des penseurs importants, un ouvrage récent publié en 2021 sur Jeffrey Alexander, intitulé « Sociologie culturelle de Jeffrey Alexander », et un autre plus ancien, publié en 2015, pas si ancien que ça, sur George Herbert Mead, intitulé « George Herbert Mead's Concept of Society, A Critical Reconstruction ». Vous avez aussi publié de nombreux ouvrages sur les cultures autochtones, en particulier la renaissance du théâtre autochtone en 2017, et en collaboration avec Claudine Cyr, la renaissance des cultures autochtones, enjeux et défis de la reconnaissance en 2018. Vous êtes également directeur de la collection Americana aux presses de l'Université Laval. Johan Michel, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes philosophe et politiste, professeur à l'Université de Poitiers, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et chercheur statutaire à l'EHESS à Paris, spécialiste d'herméneutique. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages de philosophie et de sciences sociales, parmi lesquels « Sociologie du soi, essai d'herméneutique appliquée », publié en 2012, « Devenir descendant d'esclaves », publié en 2015, « Homo interpretans », en 2017, « La fabrique des sciences sociales d'Auguste Comte à Michel Foucault » en 2018 et « Le réparable et l'irréparable » en 2021. Alors, j'aimerais commencer ce balado par une question générale que j'adresserai à tous les deux, peut-être subdivisée en deux sous-questions. Peut-être en premier, Johan, Michel, donc qu'est-ce que l'herméneutique et pourquoi en avons-nous besoin? Et est-ce que c'est en raison du cercle herméneutique, de ce qu'on appelle le cercle herméneutique, dans lequel tout un chacun est pris lorsqu'on cherche à comprendre un fait social, et qui fait que nous ne pouvons comprendre une partie de social sans comprendre l'ensemble, et qu'on ne peut comprendre l'ensemble sans comprendre des parties? Et qu'est-ce que l'herméneutique donc propose face à ce cercle?
Merci pour ces premières questions. Alors, qu'est-ce que l'herméneutique? D'une manière générale, c'est l'ensemble des disciplines qui s'intéressent à la question de la compréhension de l'interprétation du sens. Alors, on en parlera peut-être un peu plus loin, mais historiquement, ce sont des disciplines qui se sont concentrées sur la compréhension et sur l'interprétation des textes, dans la mesure où le sens de ces textes n'allait pas de soi, parce qu'ils étaient reculés dans le temps, ils appartenaient à des époques anciennes, donc ils nécessitaient un effort de compréhension. Alors, on a assisté à un mouvement d'élargissement de l'herméneutique, on en parlera aussi sans doute par la suite, où la question du sens, la question de la compréhension et de l'interprétation est allée au-delà des textes, du support textuel, finalement, pour s'appliquer à tout domaine du sens. Alors, pourquoi en avons-nous besoin? Parce que l'humaine condition ne fonctionne pas sans rapport au sens, sans rapport à la signification. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons besoin du sens pour nous orienter dans le monde, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, et c'est l'importance de la distinction entre compréhension et interprétation, que ce rapport au sens se fasse de manière réfléchie, réflexive, suspensive ou médiate. Il peut se faire de manière tout à fait immédiate et spontanée, mais dans tous les cas, qui passe par du sens. Alors, qu'est-ce que le cercle herméneutique? Alors, c'est une expression conceptuelle qui s'est cristallisé dans le cadre de l'herméneutique moderne, notamment chez Schleiermacher, l'herméneutique allemande, et qui porte au départ sur notre rapport au langage en général et au rapport au texte en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cercle herméneutique, c'est un rapport holistique à la compréhension, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le tout sans les parties, on ne peut pas comprendre les parties sans le tout. Pour pouvoir comprendre une phrase, il faut que j'anticipe le tout de la signification et en même temps que je puisse comprendre les parties de la phrase, c'est-à-dire des mots. Et cela est vrai, pas simplement par rapport à une phrase, c'est vrai par rapport à un texte. Les parties d'un texte et l'anticipation de la totalité du texte. On le fait très bien lorsqu'on fait des lectures cursives, par exemple. Hein, d'un texte, on va d'abord avoir une vue un peu d'ensemble, et puis après, avec les parties, la lecture des parties, on va acquérir une compréhension de plus en plus précise. Bon. Ce modèle de cercle herméneutique, donc appliqué au cas du texte, dans le cadre donc des spécialistes à l'époque, hein, des textes, soit les textes littéraires, les textes juridiques, des textes religieux, peut tout à fait, bien évidemment, s'appliquer aux phénomènes sociaux pour pouvoir comprendre et interpréter un groupe social, un phénomène social. Il faut pouvoir comprendre réciproquement à la fois les parties et l'ensemble qui sont anticipés. Alors, je termine sur une dernière variante du cercle herméneutique, qui est plutôt une variante, on va dire, ontologique et non pas simplement méthodologique, qui a été pensée d'abord par Heidegger et ensuite repris par Gadamer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette variante ontologique du cercle herméneutique? Ça veut dire que l'interprète ou celui qui essaie de comprendre est toujours compris ou pré-compris par ce pourquoi ou ce dans quoi il essaie de comprendre. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire qu'on est toujours dans une appartenance à des traditions de sens, etc., qui nous font anticiper, donc pré-comprendre ce que l'on va comprendre. Donc le cercle herméneutique peut avoir des implications tout à fait significatives en sociologie, puisque ça va s'opposer à la posture, je dirais, sociologique, par exemple, de type Bourdieu ou à son école, qui suppose une posture de distanciation radicale, hein, où le sociologue ou le scientifique serait en posture d'extériorité par rapport au monde social, serait capable de l'objectiver, donc serait capable de sortir de son appartenance. Donc voilà une des implications possibles ou des implications possibles du cercle herméneutique.
Et c'est parfait. Peut-être en complément de cette question, j'ai trouvé une citation dans le numéro de Zimmel que j'ai trouvé inspirante par rapport à cette question-là, de pourquoi on a besoin de l'herméneutique, à savoir qu'il y a dans toute norme ou manifestation sociale, à côté de l'intention subjective, encore une signification, nous dit Zimmel, une légalité, une fécondité qui excède notre propre force et notre intention. Alors peut-être, Jean-François, qu'est-ce que l'herméneutique propose face à ce qui nous excède, justement?
D'abord, je pense que c'est le constat, justement, du fait qu'une expression singulière, par exemple, doit être comprise en rapport avec autre chose qu'elle-même. Ça découle un peu des principes de ce que Johan a exposé tantôt à propos du cercle herméneutique, puis de l'appartenance à quelque chose. Une expression singulière, on la reproduit davantage qu'on la produit au départ. Puis donc, on la reproduit parce qu'elle préexistait. C'est comme les mots du langage. On n'invente pas les mots du langage à chaque fois qu'on se sert du langage. Les mots nous préexistent. On les utilise. On peut leur donner une inflexion spécifique ou particulière qui vont à ce moment-là accentuer justement la signification en question ou le sens qu'on veut donner à certains mots. Mais il reste que même à ce moment-là, on va jeter, pour ainsi dire, cette expression-là dans une projection qui va, encore une fois, dépasser sa particularité puisqu'elle doit être comprise. Elle doit être interprétée aussi, n'est-ce pas? Alors donc, c'est dans cette perspective-là où la signification, en dépit du fait qu'elle a une singularité, qu'elle a toujours une singularité, elle doit se rapporter à quelque chose de plus général, on pourrait même dire à quelque chose de plus universel, qui est de l'ordre du langage, qui est de l'ordre de ce qui fait une communauté, par exemple, une communauté de langage, une communauté de sens, une communauté de signification, une communauté de, disons, tradition. Quand Zimmel pointe l'attention vers cette espèce d'excès-là de l'expression, il renvoie justement à ce qu'a appelé par ailleurs dans sa philosophie de l'argent les cycles téléologiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours donc à partir du moment où quelque chose est lancé comme expression, une signification donc qui est proposée, des suites qui sont données à cette signification-là, qui ne sont pas nécessairement anticipées par exemple la singularité qui a proposé justement cette signification-là. Et donc, on est obligé de reconnaître, en fait, qu'il y a une signification qui nous échappe jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on en contrôle une certaine partie, bien sûr, mais on est aussi pris dans une suite, on peut dire, téléologique sur ce plan-là, qui va qui nous dépasse complètement et qui rejoint donc une certaine communauté plus large. Mais ça signifie aussi que nous avons nous-mêmes, avant de prendre la parole, par exemple, pris le relais justement d'une signification et en la reproduisant, on lui a donné une autre impulsion d'une certaine façon. Donc, il y a une participation générale de la part de la particularité à cette situation-là. C'est quelque chose qui a été entrevu au niveau de la sociologie. Yoann a, je pense, pointé vers des piste très intéressante. Il y a un tournant, en fait, pour l'herméneutique, c'est-à-dire l'entrée de l'herméneutique dans le domaine des sciences humaines et de la sociologie en particulier. C'est fait beaucoup dans le contexte allemand avec Dilthey, on va en parler sans doute un peu plus loin, mais aussi c'est fait avec tout le courant qui, en Allemagne, se développait selon l'horizon des sciences de la culture en opposition aux sciences de la nature. Donc, ça inclut aussi bien Simmel que Max Weber ou que Heinrich Rickert ou que Dilthey, justement. Okay? Donc, il y a ce tournant-là, en fait, dans la pensée allemande des fin 19e, début 20e siècle, qui s'oriente vers une saisie de la signification et qui, à partir de là, va mettre en œuvre tout un programme qui vise à élaborer des procédés ou des processus de compréhension et d'interprétation de la signification. Donc, c'est dans cette perspective-là où Simmel, dans tous ses développements à l'intérieur des sciences de la culture, va poursuivre en fait le programme justement d'une élaboration des conditions de réception, de compréhension en fait de la signification.
Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre peut-être avec une question à vous, Yoann Michel, en phase avec l'actualité et au cœur de vos réflexions sur l'herméneutique qui porte sur les enjeux mémoriels en lien notamment avec des traumatismes collectifs. Alors la question est, en quoi la sociologie de l'herméneutique ou l'herméneutique nous permet-elle de mieux comprendre la mise en récit du passé ou le traitement de la mémoire de traumatismes vécus par certains groupes descendants d'esclaves, d'autochtones ou de groupes racialisés?
Merci. Alors, peut-être préciser que la sociologie dite herméneutique qu'on essaie de construire, qu'on essaie de repérer chez un certain nombre de grands auteurs, peut s'opérer à un double niveau. Au niveau de la méthode sociologique, en s'opposant ici à l'idée que la sociologie serait une science purement descriptive, qu'elle serait capable de décrire de manière neutre les phénomènes sociaux. Donc, il y a l'idée que, du point de vue de la méthode, la sociologie, comme la plupart des sciences sociales ou des sciences humaines, et ça renvoie au débat que Jean-François évoquait, au départ allemand, hein, entre les sciences de l'esprit et les sciences de la nature, ça veut dire que la sociologie appartient aux sciences de l'esprit, au sens de la dénomination allemande du 19e, qu'on appelle, nous, plus couramment en français, sciences humaines, et qu'à ce titre, comme sciences humaines, elle appartient aux sciences interprétatives. Mais aussi, du point de vue de l'objet de la sociologie, au sens où elle porte sur des individus, des collectifs qui interprètent et qui s'interprètent eux-mêmes, qui interprètent le sens de leur conduite, le sens des intentions des autres, etc. Et qu'on ne peut pas se passer de cette question du sens pour pouvoir comprendre précisément, pleinement, les phénomènes sociaux. Pour revenir à la question de l'actualité, j'ai essayé, effectivement, dans mes propres travaux de recherche, de mettre un peu en application ce double niveau de l'herméneutique. Alors d'abord, dans mes premiers travaux parus en 2012, qui portaient sur des récits de vie de descendants de migrants algériens dont les parents avaient vécu la guerre d'Algérie. Et j'ai essayé de m'inspirer effectivement à la fois du concept d'identité narrative chez Ricoeur et de la notion de technologie de soi chez Foucault, pour analyser la manière dont ces descendants qui n'avaient pas vécu un événement, comme la guerre d'Algérie, mais leurs parents, eh bien, cet événement était incorporé, ou pas d'ailleurs, inscrit dans la construction, dans l'élaboration de leur identité narrative. Donc, comment ils ont cherché à se comprendre et à interpréter leur récit de vie, leur identité personnelle, à partir d'événements collectifs. Plus récemment, j'ai essayé de mettre en œuvre, de manière un peu plus détaillée, ce programme herméneutique dans le cadre de mes travaux sur les descendants d'esclaves ou sur des groupes d'Antillais ou franco-antillais qui se sont labellisés, auto-interprétés à partir des années 1990 en France, comme descendants d'esclaves. Et donc, j'essaie d'analyser leur processus discursif, leur processus de compréhension, d'auto-compréhension, d'auto-interprétation, par lesquels ils construisent une identité par rapport à une filiation qu'ils reconnaissent comme étant une filiation décisive, à savoir d'être précisément des descendants d'esclaves.
Alors, l'autre question en phase avec l'actualité que j'aimerais vous poser, Jean-François Côté, porte sur l'enjeu de la pluralité des discours dans les sociétés contemporaines. Alors, d'un côté, il y a un enthousiasme pour l'intelligence artificielle. Vous avez dit tout à l'heure, Johan, nous ne sommes pas des robots. On comprend mal les types de compréhension qu'elles mettent en avant. Puis d'ailleurs, c'est décortiqué par Jonathan Roberge et Tom Lebrun dans ce numéro. En même temps, il y a une méfiance rationaliste contre l'herméneutique, encore davantage dans des contextes où le temps n'est pas à la mise en intrigue politique ou médiatique, mais plutôt à l'appel à l'unité, pour des raisons d'ordre public, telles que, par exemple, pour un enjeu très récent, faire vacciner le plus de gens. Alors, un des textes de numéro, d'ailleurs, celui de Laurence Kaufmann, Cédric Tercy et Fabienne Malbois, porte sur la place donnée aux discours tiers et sur la tendance à les réduire ou à les écarter. Alors, comment la sociologie de l'herméneutique répond-elle à cette méfiance ? Comment recrée-t-on une pluralité de perspectives qui ne tombe pas dans cette dichotomie complotiste, anticomplotiste, bien, mal, vrai, faux, que critiquent d'ailleurs ces auteurs?
C'est une grande question. Je renverrai pour une réponse plus complète aux textes qui ont été mentionnés, en fait, qui font partie du numéro. Mais disons que si on part avec l'idée justement de la pluralité des discours et de la manière par laquelle ceux-ci s'organisent à l'intérieur de la société, je pense qu'il y a une manière de poser l'idée que les discours ne doivent pas être étanches. C'est un peu ce qui se produit dans le contexte de ce qu'on appelle le complotisme, en fait, où des discours circulent un peu en vase clos à l'intérieur de certaines communautés qui font usage souvent des médias sociaux, d'ailleurs, en fait, et donc qui créent une certaine étanchéité par rapport à la manière par laquelle les discours circulent et par le fait même, les significations se cristallisent, en fait, à l'intérieur de ces groupes-là. Ce qui devient un peu particulier, c'est qu'il n'y a pas moyen d'intervenir par rapport à la cristallisation qui s'opère sur ce plan-là, parce qu'il y a une reconnaissance automatique, on pourrait dire, en fait, entre les significations qui sont échangées. Il n'y a pas moyen d'intervenir de l'extérieur pour, par exemple, contredire un argument ou une chose qui est posée comme étant vraie indubitablement, alors qu'évidemment, le principe même d'interprétation de la signification suppose qu'on peut toujours un peu remettre en question cette signification-là pour essayer de supposer justement son sens, sa portée, etc. Mais comme je dis, il faut aller voir l'article pour avoir le détail un peu de la manière par laquelle on argumente justement à l'encontre donc d'une fermeture, une clôture du sens qui s'opère dans le contexte complotiste. À l'autre bout du spectre, c'est sur la question de l'automation, en fait, d'une certaine manière, des discours qui s'opèrent par le biais de l'intelligence artificielle. On peut penser à des exemples comme, par exemple, la traduction. On développe aujourd'hui des logiciels de traduction qui sont extrêmement performants, mais qui, en même temps, peuvent être problématiques, justement, parce que, par l'automation, il y a là aussi un circuit fermé qui s'opère, qui est celui, à ce moment-là, du logiciel. Et donc, la mise en cause de la signification trouve des correspondances qui sont justement, je dirais pas, peut-être pas unilatérales, mais relativement automatiques. Ce qui, encore une fois, pose problème parce que la traduction, qui est un enjeu pour l'herméneutique, quand Johan parlait tantôt de la compréhension des traditions ou de la manière par laquelle justement s'opère le transfert de génération, en fait, de certaines significations, ben, il faut toujours qu'il y ait une actualisation dans le contexte d'une expérience présente. Ça, c'est un principe qui avait été mis en lumière par Dilthé, entre autres, l'importance de ce qu'il appelait le Lebenswelt, en fait, le monde vécu, le monde de la vie comme tel. De ce point de vue-là, ben justement, l'intelligence artificielle paraît, dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas vrai complètement, il faut voir jusqu'où ça va et tout, mais paraît, encore une fois, court-circuiter le moment du retour à l'expérience présente dans l'automation qu'elle produit. Ce qui veut dire qu'on a encore une fois l'effet de circuit fermé qui se produit et qui rend peut-être par moment problématique le rapport avec l'expérience présente. La traduction, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en aurait d'autres aussi, évidemment, auxquels on peut penser et auxquels l'article que vous avez fait référence là, de Tom Lebrun et Jonathan Roberge donnent des explications à ce sujet-là.
J'aimerais maintenant peut-être qu'on revienne, même si on ne l'a pas complètement quitté, à la position de ce numéro dans l'espace intellectuel sociologique et en fait surtout peut-être au-delà de cet espace intellectuel, puisque de fait le numéro fait de nombreux ponts et liens évidemment entre la sociologie et la philosophie, mais aussi entre la sociologie et la littérature. Alors commençons peut-être par parler de philosophie. Avec une question peut-être à Johan, Michel. Les principaux penseurs de l'herméneutique sont des philosophes, vous en avez cité. Ce numéro de sociologie entreprend un dialogue entre la sociologie et la philosophie en montrant ce que les philosophes de l'herméneutique peuvent apporter à la sociologie. Ainsi, on a par exemple Jean-Claude Jans et Denis Thouars qui développent ce que les sciences sociales peuvent retenir de Dilthey, Dave Poitras et Frédéric Guillaume Dufour qui s'inspirent d'Alfred Schütz, Louis Quéré de Charles Taylor, Janice Trin de Gadamer et vous, Johan Michel de Ricoeur. Alors, pourquoi la sociologie a-t-elle besoin de revenir à l'interprétation des œuvres de ces philosophes? La sociologie a-t-elle besoin de la philosophie?
Une vaste question. Alors, peut-être une reclarification en montrant que l'herméneutique moderne n'est pas spécifiquement philosophique. Elle est plus philologique que philosophique. Alors, même si elle peut être l'œuvre de philosophe, mais qui est en même temps philologue ou théologien. Mais encore une fois, tout cela pour insister sur le fait que l'herméneutique moderne était vraiment centrée sur les textes. Elle est devenue véritablement philosophique, l'herméneutique, ou de plus en plus philosophique à partir de Dilthey, et encore plus avec Heidegger, Gadamer et puis Ricoeur, hein, qui sont les grandes figures de cette tradition proprement philosophique de l'herméneutique. Alors pourquoi les sociologues auraient-ils à s'intéresser à la philosophie, aux philosophes, et en particulier aux philosophes herméneutiques? Ben déjà pour des questions d'héritage. Alors pour des questions d'héritage intellectuel, j'entends, et voire de dette intellectuelle, puisque la plupart des courants sociologiques héritent très clairement de courants philosophiques. J'ai essayé de le montrer dans mon ouvrage « La fabrique des sciences sociales », que ce soit l'École française de sociologie qui hérite clairement du positivisme d'Auguste Comte, que ce soit la sociologie compréhensive qui hérite très clairement de la tradition herméneutique, que ce soit la tradition ethnométhodologique, interactionnisme symbolique, qui hérite très clairement de la tradition phénoménologique par l'intermédiaire de Schütz, etc., etc. Donc, il y a tout un héritage aujourd'hui qui est de moins en moins connu, notamment dans la formation de nos étudiants. Je suis assez atterré aujourd'hui de voir, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, de voir en France la formation de nos étudiants qui ignorent pratiquement complètement cet héritage. Ils ont l'impression que la sociologie émerge comme ça au 19e, de la tête de grands penseurs, qui, la plupart d'entre eux, je parle notamment pour la France, sont tous des philosophes de formation. Durkheim est philosophe de formation, Mauss est philosophe de formation, Lévi-Strauss, Bourdieu, Passeron et j'en passe. Bon. Donc, il y a toute une coupure qui s'est faite. Alors, que la sociologie ait dû et pu s'institutionnaliser et s'autonomiser par rapport à la philosophie, c'est un bien évidemment, et surtout par rapport à une certaine philosophie. Par contre, que cette autonomisation en vienne à ignorer ou à refouler tout cet héritage, c'est véritablement dramatique, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas bien comprendre, entièrement comprendre les concepts, les enjeux, les débats en sociologie si on ignore cette tradition. Pensez même à un sociologue comme Bourdieu, pratiquement tous ces concepts viennent de la tradition philosophique. Habitus, exis, ethos, doxa. Alors certes, il va les sociologiser, il va les transformer. De même que Durkheim, dans ses analyses sur le phénomène religieux ou sur le suicide, il va reprendre les grandes catégories kantiennes, mais qui va sociologiser. Je crois qu'il faut revenir à un dialogue, plus qu'un dialogue beaucoup plus poussé, en tout cas en France. En Allemagne, la situation est différente. Les liens entre philosophie et sociologie ont été toujours beaucoup plus étroits. Hein. On le voit encore même aujourd'hui à l'école de Francfort, à l'Institut de Francfort, où des philosophes, des sociologues vraiment travaillent ensemble. Mais en France, ça a été beaucoup plus conflictuel, hein, et ça l'est encore, et ça me semble extrêmement dommageable. Alors, ce n'est pas seulement une question d'héritage, c'est aussi une question d'avenir, si je puis dire. D'avenir au sens où les sociologues ont tout à gagner aujourd'hui à se nourrir d'un certain nombre de concepts philosophiques, anciens ou beaucoup plus contemporains. Moi, je pense à des sociologues comme Boltanski, Thévenot, Quéré, qui se sont nourris de la philosophie de Ricoeur, par exemple, et pourront faire des choses tout à fait intéressantes. Mais réciproquement, on doit attendre aussi de la part des philosophes, à ce qu'ils se nourrissent un peu plus qu'ils ne le font souvent, des sociologues, des théories sociologiques, et pas d'être simplement repliés sur l'histoire de la philosophie, sur leur passé et sur leur gloire, je crois. Donc, il y a toute une interdisciplinarité à repenser, je pense.
Alors, c'est ce que fait très bien, je pense, le numéro. Peut-être maintenant, les liens entre la sociologie et littérature, les renvois à la philosophie sont très nombreux, mais ceux à la littérature et peut-être plus généralement au texte, vous en avez fait référence tout à l'heure, sont aussi très, très présents dans le numéro. On a Louis Jacob qui discute d'un texte de Jean Paulhan, Éric Gagnon qui discute des procédés d'écriture en sociologie, et peut-être surtout, finalement, vous deux, dans vos contributions, vous discutez tous les deux de la texture du monde social. Alors, qu'est-ce que cette notion de texture sociale? En vertu de quoi on peut considérer le monde social analogiquement avec le monde du texte? Et en quoi cela peut-il nous aider dans la compréhension des phénomènes sociaux? Vous l'avez déjà mentionné, mais peut-être on peut approfondir ce thème-là.
Oui, c'est évidemment une question énorme qu'on ne peut pas aborder de manière complète en l'espace de 5 minutes. Mais je vais essayer quand même de proposer une entrée en matière, disons, à ce sujet-là. L'importance du texte se fait sentir à plusieurs niveaux. À un premier niveau, justement, c'est celui donc de l'objectivation du discours. Ça a été traité beaucoup par Paul Ricoeur, entre autres, dans l'idée de mise en récit. On s'est rendu compte au fil des dernières décennies, c'est un mouvement qui date probablement d'autour du milieu du 20e siècle, de l'importance justement des récits, de la manière par laquelle les gens organisaient la signification de leur existence autour de cette capacité-là à mettre en récit. Et donc, ça nous porte directement, en quelque sorte, vers la littérature, puisque la littérature est une des manières par lesquelles se manifeste cette capacité-là humaine à organiser un discours en récit. Donc, ça, ce serait peut-être un premier niveau où on dit, bon, là, la littérature, le monde du texte est quelque chose d'extrêmement important au cœur des sociétés humaines, et l'herméneutique, dans la mesure où elle s'est penchée du côté de la religion, du côté du droit, en fait, qui sont ces deux sources d'inspiration fondamentales premières, puis ensuite la philosophie, c'est toujours attaché au texte. Mais évidemment, puis là, ça c'est un deuxième volet, le texte, ça apparaît peut-être comme quelque chose de relativement abstrait également pour l'expérience présente. On réalise peu à quel point, justement, notre existence est tissée, justement, d'interaction avec le texte, parce que le texte, on ne l'a pas toujours devant les yeux. À la limite, le texte, il s'incorpore en nous, sans qu'on sache d'ailleurs toujours comment ça se fait. Le texte s'incorpore en nous, puis c'est à partir de ce moment-là où on peut peut-être commencer à parler de texture. C'est-à-dire que le texte, c'est évidemment quelque chose qui est objectivé dans un récit ou dans des disciplines juridiques, religieuses ou même des sciences humaines en général. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui ne s'adresse qu'à la manière par laquelle on peut, de manière raisonnée, ordonner un récit, c'est quelque chose qui fait appel aussi au sentiment. Et c'est là où la question de la texture devient intéressante, c'est-à-dire que tout discours possède cette capacité-là de nous affecter. Puis bon, la tradition philosophique, d'un côté, a souvent tenu à mettre une espèce de distance entre le pôle rationnel et le pôle passionnel, en fait, alors qu'on se rend compte que dans le discours, ces deux pôles-là sont en réalité souvent réunis. évidemment, l'expression littéraire, romanesque, théâtrale, etc., donc porte beaucoup sur cette capacité-là d'union entre le rationnel, la capacité de mettre en récit, même l'utilisation des concepts, et la capacité qu'ils ont de nous toucher, de nous émouvoir. Alors, la texture sociale, ça renverrait à cette présence-là du texte qui se fait sentir, même souvent à notre insu, mais auquel on doit se référer pour avoir une compréhension plus précise de la façon dont nous sommes affectés justement par les textes à l'intérieur de la vie sociale en général. C'est-à-dire que il y a un terme en anglais qui est intéressant, qui possède une signification en français un peu différente, le terme de « embodying », c'est-à-dire d'incorporer, de manifester sur le plan corporel, en fait, donc la signification. Et on se rend compte que quand on parle de texture sociale, c'est un peu à ça qu'on renvoie. En fait, dans une certaine définition, c'est à ça qu'on renvoie, c'est-à-dire à la manière par laquelle nous sommes affectés par les significations sur le plan sensuel, émotif, passionnel. Et donc, la texture sociale, on peut parler, puis ça, c'est quelque chose qui a nourri la réflexion politique depuis l'Antiquité, cette façon-là qu'on a donc d'émouvoir, hein, dans les vieilles leçons de la rhétorique, quand on veut émouvoir par un discours, quand on veut mettre des auditeurs dans une certaine disposition, quel procédé discursif on doit utiliser. Ça a été utilisé aussi par la pensée moderne. On n'a qu'à penser à Machiavel, par exemple, dans la manière par laquelle il rendait compte du fait que les régimes politiques font régner, par exemple, soit la peur à l'intérieur de la population, donc des affects, mobilisent des affects dans le contexte de l'organisation politique des sociétés. Alors, quand on parle de texture sociale, c'est à ça qu'on renvoie, c'est-à-dire à la qualité sensible des discours et à la manière par laquelle nous sommes affectés par les discours, autant sur le plan, je dirais, affectif que sur le plan normatif ou cognitif, rationnel, par exemple. Je ne sais pas si je réponds entièrement à votre question.
Oui, mais Johan, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Parce que vous aussi, vous développez cette notion.
Oui, non, mais Jean-François a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses très intéressantes. Alors, il faudrait peut-être distinguer la notion de texte au sens strict du support écrit ou du discours écrit, avec un sens plus large, voire métaphorique. C'est un peu de cette manière-là que j'ai aussi entendu ou compris la notion de texte, qui renvoie, l'a dit Jean-François, à ce qui est tissé, mais le monde social, même lorsqu'il n'est pas texte, même dans des sociétés sans écriture, comporte, je dirais, une dimension de textuelle, dans ce sens très large, au sens de configuration de sens qui sont autonomisés, qui sont stabilisés. Un rituel de politesse, un rituel religieux, c'est un texte au sens large du terme, pas au sens strict du discours écrit, mais au sens large où c'est une configuration de sens qui s'autonomise par rapport aux agents, qui s'autonomise par rapport aux individus et qui, est dotée d'une quasi-autonomie, si vous voulez, alors qui est susceptible, bien évidemment, d'une transformation, d'une interprétation, d'une réinterprétation par des acteurs, des performances, des mises en scène. C'est là où toute la sociologie ethnométhodologique, interactionniste, est tout à fait intéressante pour comprendre comment, justement, cette texture sociale, même si elle comporte une dimension objectivée et objectivante, elle n'est pas éternelle, elle n'est pas ahistorique, elle est susceptible, elle a une force contraignante, bien évidemment, mais elle n'est pas une pure chose, pour parler comme Durkheim, elle n'est pas une pure chose, elle est une structure souple, un texte ouvert, pour parler comme Ritter ou comme Umberto Eco, qui est susceptible de variations, qui est susceptible d'interprétation, d'adaptation, de réadaptation, un peu, si on devait poursuivre l'analogie, avec un texte en théâtre, une même pièce est susceptible, donc la pièce jouerait analogiquement la fonction précisément de cette texture sociale, d'une institution, ce qu'on appelle en sociologie une institution sociale, tout simplement, et qui est susceptible de variations par les metteurs en scène, par les acteurs sociaux eux-mêmes. Donc le texte n'est pas une unité de sens qui est certes autonomisée, mais dont le contenu sémantique n'est pas intemporel. Il est susceptible de varier, il est susceptible de se transformer. Et c'est ce qui va donner aussi de l'histoire aux institutions du sens et aux institutions tout court. Thank you.
peut-être un petit éclairage, justement, à caractère herméneutique sur la notion de texte, qui, en fait, sur le plan étymologique, renvoie justement au fait de tisser, hein, de texere. Le texte, c'est le tissage. Puis donc, le tissage de la vie sociale, ça se fait au niveau des relations, évidemment, dans l'expérience présente, mais ça se fait aussi dans une capacité à les objectiver dans un registre qui apparaît comme étant ce qu'on est venu à appeler le texte. Mais le tissage-là de la vie sociale, il s'est fait, en fait, bien avant l'apparition du texte comme tel. Puis on peut dire aussi, pour rajouter à ça, mais je tire ces enseignements-là, en fait, des travaux de Pierre Legendre, qui, dans son livre sur la société comme texte, en fait, explicite ces conditions-là, justement, de la textualité, puis du rapport à la vie sociale de la textualité. Quand on se réfère, par exemple, au code, ben, ces codes-là qui enregistrent donc ces objectivations de la vie sociale-là apparaissent aussi comme des sanctions de la vie sociale. Du code civil au code de la route, en passant par le code vestimentaire et jusqu'à l'ensemble des codes. Le code, c'est le codex, en fait. Le codex, c'est le livre. Donc, encore là, sur le plan étymologique, on voit que la provenance de ces expressions-là doit être peut-être mieux comprise dans le contexte d'une sociologie herméneutique que ce à quoi on fait référence habituellement dans d'autres ordres de sociologie. J'ajoute une dernière petite précision sur la manière par laquelle le modèle du texte, une fois qu'il est compris dans toute sa complexité, peut en sociologie intervenir comme un modèle qui est concurrent et peut-être même plus performant que certains autres modèles qui nous sont hérités de la biologie. On a, à l'intérieur de la sociologie, par exemple, un modèle qui a été très, très en vogue à partir déjà du 19e siècle, le modèle de la biologie qui a considéré la société comme un organisme et qui s'est poursuivi dans le systémisme parsonien et éventuellement dans le systémisme lumanien, où le modèle de référence de base, c'est la biologie. Or, le modèle textuel vient rencontrer assez frontalement cette conception-là de modèle social, en fait, de modèle social de référence de base pour la sociologie, en opposant une autre manière de comprendre tout simplement la façon dont les sociétés s'organisent. Non pas comme des organismes, justement, biologiques, mais comme des textes, donc des productions humaines issues de l'expression humaine, l'expression symbolique humaine.
Par rapport à ce que dit Jean-François, qui est tout à fait juste, juste peut-être préciser que cette texture du monde social n'est pas toujours codifiée à la manière des grands systèmes juridiques ou du code de la route. Il y a aussi toute une texture qui est implicite, qui n'est pas écrite. Hein. Je parlais de rituels tout à l'heure, je parlais qui ne sont pas nécessairement écrits, codifiés. Alors, ils ont une forme de codification, mais qui ne passe pas par le texte au sens étroit du terme. Hein. C'était cette première précision. Et la seconde, c'était que les structuralistes, que ce soit en linguistique ou en anthropologie, ont aussi, bien évidemment, beaucoup travaillé sur la notion de texte. Et un philosophe comme Ricoeur, bien évidemment, a également beaucoup dialogué avec cette tradition. Mais ce qui me semble important et ce qui va faire la différence aussi de l'herméneutique par rapport à certaines versions de structuralisme, c'est que cette texture du monde social, précisément, elle n'est pas close. Chez les structuralistes, il y a l'idée d'une clôture, hein, du langage, d'une clôture des systèmes de Simmer. Or, dans l'herméneutique, surtout post-Heideggerienne, chez Gadamer et chez Ricoeur, il y a vraiment l'idée que, finalement, le vrai sens du texte, il se fait par les appropriations, donc par l'acte de lecture. Donc, si on retranspose ça dans le monde social, par les acteurs qui vont en permanence, un professeur, bien évidemment, dans une salle de classe, il hérite d'une texture institutionnelle, d'un tas de codification, etc., etc. Mais chaque professeur va mettre en scène, va interpréter, donc va ouvrir. Donc la texture s'ouvre dans l'acte. Et c'est là où je crois que la sociologie herméneutique rencontre aussi certaines variantes du pragmatisme, aussi bien en philosophie qu'en sociologie, par une attention très forte au contexte, aux situations de sens. Voilà, petite précision.
Oui, précision importante. Peut-être on peut, on a évoqué la sociologie pragmatique, mais si on revient justement à la sociologie, il y a beaucoup de sociologues qui sont intéressés à l'interprétation, ça on le sait, Weber, Simmel, Baumann, Garfinkel, Alexander, il y en a d'autres qui sont d'ailleurs cités dans le numéro. Leurs sociologies sont développées, analysées dans le numéro. Bon, on a celle de Simmel qui est dans le texte de Denis Toire, on a celle d'Alexander dans votre texte Jean-François Côté. Alors pourtant, vous dites que la sociologie herméneutique n'est pas un courant labellisé. Donc, il y a beaucoup de sociologues qui peuvent être des herméneutes, mais ce n'est pas un courant labellisé. Alors, qu'est-ce que la place de l'herméneutique dans la sociologie?
Pour répondre à cette question-là, et à la possibilité d'une sociologie herméneutique, il faut se plonger, je pense, dans l'actualité des débats qu'il y a en sociologie en ce moment, où la sociologie cherche des nouvelles voies de développement qui peuvent être en touche avec des situations contemporaines. Qu'on pense, par exemple, au pluralisme culturel qui renvoie justement à l'interprétation des différentes traditions culturelles au sein d'une même société, qu'on pense au problème historique, en fait, de l'interprétation justement de notre histoire contemporaine, du monde contemporain. Ça renvoie donc à des interrogations quant au sens et à la signification, disons, de l'existence humaine, pour parler de manière tout à fait générale. Alors, la sociologie peut s'intéresser à ces questions-là en empruntant une voie herméneutique. C'est, je pense, l'idée qui se dégage de beaucoup des articles du numéro, à savoir que l'herméneutique est capable de répondre à un certain nombre d'interrogations de la sociologie contemporaine. Maintenant, évidemment, il y a plus à penser que ce que nous avons pu réunir, rassembler dans le cadre du numéro en question. On souhaite d'ailleurs que le numéro suscite des questionnements, des discussions, peut-être des critiques, même des commentaires à ce sujet-là, pour qu'on puisse justement entamer un dialogue en profondeur sur l'herméneutique, qui, soit dit en passant, et après ce qu'on a dit aujourd'hui concernant, par exemple, le rapport au texte, a toujours fait partie, en fait, de la sociologie. Ça a toujours été une partie, l'interprétation des textes, en fait, autant chez les classiques de la sociologie, de Marx à Durkheim, en passant par Weber jusqu'à Parsons, etc., jusqu'aux sociologies les plus récentes. On fait appel à la question du texte en sociologie de manière constante et on produit des textes. Donc, s'interroger sur ce qui apparaît comme un des aspects centraux de l'herméneutique, soit la question de la textualité ou même la texture sociale, ça apparaît rencontrer donc des interrogations pertinentes pour la sociologie contemporaine. En même temps, évidemment, ça a toujours fait partie de la sociologie, mais de manière peut-être un peu cachée ou latérale. C'est pas des questions qui ont été nécessairement posées de front à la sociologie. Alors, dans ce numéro-là, on tente peut-être d'aborder certaines de ces questions-là de front, mais je suis certain que Johan a des choses intéressantes à rajouter à ce sujet-là parce qu'il est en plein développement, justement, lui-même, de cette sociologie herméneutique.
Oui, alors, peut-être des petites choses. Alors, repréciser peut-être que la sociologie herméneutique n'est pas un courant labellisé. Alors, sauf en Allemagne, il y a un courant autour de Jorge Schert, mais ça n'a pas eu énormément d'écho au-delà d'Allemagne, et même en Allemagne, il n'y a pas une reconnaissance qui est énorme. Donc, nous, notre objectif, ce n'est pas de faire une école, c'est la sociologie herméneutique. On pose des pistes, et dans tous les cas, peut-être que pluriel. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce numéro, à travers les articles, qu'ils soient plus philosophique ou qui soit plus sociologique ou plus centré sur des terrains empiriques, c'est qu'il y a un éventail extrêmement important et extrêmement large, extrêmement pluriel. Mais à travers cet éventail, bien évidemment, il y a des convictions communes, il y a un certain nombre de présupposés communs, l'importance qu'on accorde au sens des collectifs ou des individus, au texte, Jean-François l'a rappelé. Mais l'idée, c'est d'essayer de renouveler, modestement, on ne prétend pas révolutionner la discipline, mais d'essayer de renouveler un certain nombre d'interrogations qui, certaines ont été aussi oubliées. On parlait tout à l'heure des héritages de la philosophie qui sont en partie refoulés, qui sont en partie ignorés aujourd'hui, ou un certain nombre de débats, même du 19e siècle, mais qui sont capables aujourd'hui de nourrir le débat sociologique. Je pense que question qu'abordait Dilthey ou l'opposition que faisait Dilthey entre les sciences de la nature et puis les sciences de l'esprit. Ce sont des questions qu'on peut reposer aujourd'hui avec le développement de la sociobiologie, des sciences du vivant, etc., qui sont en mesure, de renourrir ces débats. Et c'est un peu l'objectif, je crois, de ce numéro.
Bon, donc merci pour toutes ces réponses. Le balado en vient à sa fin. Est-ce que vous avez, pour finir, quelque chose à rajouter?
Je pense que d'une certaine façon, notre expression se clôt ici, c'est-à-dire que on a un peu jeté un regard sur le numéro, sur ce qui a été fait. Johan et moi avons dirigé le numéro. On a contribué aussi, comme d'autres auteurs. Je pense que c'est un numéro qui est assez intéressant. Mais justement, c'est qu'en tant qu'auteur, notre expression se clôt là-dessus, c'est-à-dire qu'on va, on va attendre à partir de là le mot des lecteurs, d'une certaine façon, c'est-à-dire la réaction des lecteurs à ce qu'on a proposé. Puis c'est tout à fait cohérent avec l'idée, justement, de la poursuite d'un dialogue sur le plan herméneutique, c'est-à-dire qu'il faudra sans doute que des gens interprètent ce qu'on a voulu dire dans le cadre du numéro et se mettent, justement, à travers leurs questions, leurs réponses, leurs objections, leurs commentaires, leurs critiques, bien, se mettre à discuter, en fait, à mettre en cause les significations qu'on a voulu évoquer dans ce cadre-là. La parole est au lecteur.
C'est une belle fin de balado. Un grand merci à tous les deux, Jean-François et Johan.
Ben, merci beaucoup, Stéphane, en tant que directeur de la revue.
Merci beaucoup.
Ça a été un plaisir de travailler avec toi.
Oui, un vrai plaisir. Un grand merci.
Alors à très bientôt Jean-François et Johan et au plaisir de sortir ce numéro en livre bientôt. Puis au revoir à tous les deux.
Au revoir.
Au revoir, merci encore, au revoir.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci.